frapper fort parce que j'ai pas de montre alors. Ça va sonner. Merci. Nous avions vu que première intention de Dieu sur Adam et Ève avec le paradis terrestre a été brisée par la chute. C'est extraordinaire de voir, j'allais dire, la docilité de Dieu. Nous aurions dit, on a tout bien préparé, c'est magnifique, et puis, voilà, l'orgueil, y avait-il en plus une ambition d'Ève? C'est possible. L'orgueil se traduit toujours à travers une autre passion. C'est forcé. Et alors, cet orgueil, dans un souci d'autonomie, de pouvoir soi-même choisir son bonheur, réaliser son bonheur, avec les moyens qu'on a prévus, et une sorte de désir anti-sagesse, un péché, c'est normal que cette première faute, qui est si grave, puisqu'elle a une répercussion encore maintenant, et que Dieu n'a pas voulu que la croix qui aurait pu faire qu'il n'y ait plus aucune conséquence du péché, que Dieu laisse par la nature, vous voyez, c'est une des raisons pourquoi il y a la nature. Le péché de l'ange n'a pas de conséquence dans son suivant. Parce qu'il n'y a pas la génération. Et donc, il y a sûrement l'orgueil, mais l'orgueil lié, je crois, à une sorte de désir d'autonomie complet. Alors, on voit la punition de Dieu. Et la punition de Dieu regarde les personnes. Et déjà, la punition sépare dans la nature l'homme et la femme pour montrer que le péché n'a pas été le même. Le péché d'Ève est plus grave que celui d'Adam. Adam s'est laissé prendre par Ève. Et alors, la faute est différente. Parce que c'est pas directement la nature. Mais en plus, la nature va être touchée. Il y a la punition de Dieu à l'égard de l'homme, de la femme et du serpent. Ce serait intéressant à l'égard du péché originel, de regarder la différence de faute pour l'homme, la conséquence de la faute pour l'homme et pour la femme. Vous voyez, le péché accentue la diversité personnelle de l'homme et de la femme. C'est très très visible. Déjà au point de vue nature, Dieu, d'une façon symbolique, montre la diversité. Mais la peine va être différente. Alors, la peine regarde la personne et regarde la nature, puisque c'est un péché de nature. Et puis, ce qui est très important, c'est justement la conséquence du péché regarde toute la descendance d'Adam et d'Ève. Dieu dit, voilà que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'il avance la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive à jamais. Il y avait Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, on nous montre que Dieu lui-même arrête le désir que l'homme possède en lui de manger de l'arbre de vie. Et Dieu lui interdit symboliquement, c'est bien montré. Il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de glaive tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il y aura dans l'homme et dans la femme une nostalgie profonde, radicale, de retourner dans le jardin d'Éden, de retourner à cet état premier, et le désir d'y parvenir. Je crois que Dieu nous montre là la nostalgie la plus profonde, oui, la mémoire du corps, la nostalgie la plus profonde que l'homme et la femme, Adam et Ève, ils sont bloqués ensemble, auront. Donc, je crois que c'est ce qu'il y a de fondamental dans toutes les hérésies. Puisque dans toutes les hérésies, il y a quelque chose que l'homme fait qui est contraire à la volonté de Dieu, qui n'accepte pas ce fait que la terre n'est plus un lieu de bonheur divin et humain, une harmonie parfaite entre l'âme et le corps, que la terre est un lieu de purification à l'égard du premier péché. Le péché est pardonné, mais les conséquences du péché demeurent. Et on coopère avec Dieu pour retrouver un équilibre de vie. Et il y aura toujours dans le cœur de l'homme et de la femme un désir foncier de retrouver l'Éden, le bonheur de l'Éden. Vous voyez ? Quand vous lisez Teilhard, vous voyez qu'au fond de toute la grande vision de Teilhard, c'est ça. C'est clair. On veut retourner dans cet équilibre parfait entre le point de vue corps et âme, nature et personne. Parce qu'au point de départ, il y a un équilibre parfait entre la nature et la personne. Et une des conséquences du péché, et même la conséquence la plus fondamentale du péché, c'est que la nature est blessée et elle blesse l'âme. Le péché se communique par la nature. Et le péché a des conséquences personnelles pour chacun d'entre nous et des conséquences différentes. Et le péché de nature est le même. Et je crois que ce serait quelque chose de très important à voir. En quelque sorte, l'homme désire réaliser ses béatitudes. Et les béatitudes prononcées par Jésus montrent comment l'homme peut retrouver le bonheur par les béatitudes évangéliques. Et donc, il y a une caricature démoniaque, mais enracinée dans la nature, une caricature de chacune des béatitudes. Ah, ce serait... C'est quelque chose que le philosophe chrétien doit pouvoir déceler. Nous avons immédiatement après le péché sorti de l'Éden. La diversité entre les descendants d'Adam et Ève, entre Caïn et Abel. Vous voyez, la diversité première n'a pas apporté la jalousie. Il n'y avait pas de jalousie entre Adam et Ève. La jalousie était par rapport à Dieu. Tandis que nous voyons qu'immédiatement après le péché, la jalousie se retrouve dans le cœur des frères. C'est une jalousie qui va mener au fratricide. Et je crois que c'est très important de voir le caractère propre de cette jalousie qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental dans l'homme, dans la nature humaine, indépendamment de la grâce, en dehors de la grâce, parce qu'ils n'ont plus la grâce. Ils ont une nature humaine. Une nature humaine, en Caïn, il y en a Abel. C'est l'attitude religieuse. Là, vous voyez, c'est là où on voit que la laïcité française est une laïcité qui va très loin. Puisque vous savez, le caractère propre de la laïcité française, qui vient d'un positivisme absolu, c'est de dire qu'il faut supprimer du cœur de l'homme toute attitude religieuse. La laïcité de tous les autres pays respecte l'existence de Dieu. Et la laïcité se porte par rapport aux modalités religieuses. Mais la laïcité française qui veut s'imposer à l'Europe, c'est de faire que l'homme, naturellement, ne découvre pas Dieu. Naturellement, l'homme est complètement libre. Et que déjà, pour sauvegarder sa liberté, on doit supprimer l'attitude religieuse. C'est-à-dire, on doit affirmer que Dieu n'existe pas. Alors, dans le communisme, ça existait. Mais le communisme ne s'est jamais présenté comme étant naturel, fondamental. Tandis que dans la laïcité française, on présente ça comme quelque chose de fondamental. C'est sûr que c'est les communistes, c'est le communisme et le marxisme qui a conduit à ça. Mais actuellement, où le communisme et le marxisme n'est plus affirmé chez le laïc, qui se veut un homme parfait, qui se veut parfaitement homme, il refuse la dépendance à l'égard de Dieu. Il refuse de regarder Dieu comme créateur, de regarder Dieu comme existant. Affirmer l'existence de Dieu, c'est dans cette perspective de cette laïcité française, c'est déjà quelque chose de trop. C'est, je crois, très important de comprendre cela. Parce que c'est une injure directe à Dieu. C'est que l'homme veut une liberté, une autonomie qui soit à partir de la négation de Dieu. Et la négation de Dieu libère l'homme de sa dépendance à l'égard de son Créateur. Et donc l'homme n'est parfaitement homme, c'est-à-dire parfaitement libre, que s'il refuse l'existence de Dieu, l'existence du Créateur. C'est très étonnant de voir que la première jalousie entre des frères fraternels est venue de leur attitude religieuse. Qu'un offrait à Dieu des sacrifices et Dieu recevait ces sacrifices. Dieu les acceptait. Tandis que Caïn faisait sacrifice et Dieu ne recevait pas ses sacrifices. Or, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits du sol en oblation à Dieu. Au bout d'un certain temps, hein, c'est assez beau de montrer que c'est petit à petit l'homme qui s'est découvert comme une personne, son indépendance, à partir de sa nature blessée. Abel, de son côté, présenta des premiers nés de son troupeau, ainsi que de leur graisse. Yahvé porta ses regards vers Abel et vers son oblation, mais vers Caïn et vers son oblation, il ne les porta pas. Caïn entra en grande colère. La colère de la jalousie, hein, et eut le visage abattu. En vie commune, et le visage abattu, en vie commune, Yahvé dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi as-tu le visage abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Mais si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il pas point tapis à la porte? Vers toi se portera son désir. À toi de dominer sur lui. Caïn dit à Abel, son frère, allons dehors. Or, tandis qu'ils étaient dans la campagne, Caïn se dressa contre Abel, son frère, et le tua. Yahvé dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Il dit, je ne le sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Donc, première chose, hein, l'orgueil qui se traduit dans l'homicide, dans le fratricide. Parce qu'ils ont du tempérament, hein. Ils ne sont pas encore très abîmés. Donc, ils ont une stature assez nette. Et tout de suite, l'absolu. Et immédiatement qu'à l'absolu, le mensonge. Le mensonge né de la culpabilité non avouée, de la faute. C'est très beau, ça. Et c'est très, très grand de voir ce point de vue-là, de voir qu'il y a immédiatement une sorte de fécondité, de fausse fécondité, une fécondité du péché. Pourquoi ? Parce que le péché provient d'une passion de la vie. Caïn vit contre Abel. Il est jaloux de la du contact d'Abel avec son Dieu. Oui, ce qui montre que le péché n'avait pas détruit, le péché n'avait pas détruit en Abel son contact avec Dieu. Abel, et c'est sans doute à cause de ça qu'il est souligné au bout d'un certain temps. Au bout. Il a fallu acquérir ça. Et Abel avait acquis ce sens de Dieu, bien que sa mère ait péché. Ceci montre, voyez, que le péché ne supprime pas ce qu'il y a de naturel en nous. Il est naturel d'adorer Dieu et de l'adorer profondément. Et donc, cette première faute, c'est net. L'orgueil, la jalousie. Et l'attitude inverse d'Abel qui adorait Dieu. Et Abel n'est pas jaloux d'Adam. Et ceci, c'est la conséquence immédiate d'être chassé du paradis terrestre. Une fois qu'on est chassé du paradis terrestre, il n'y a plus la grâce de Dieu. Et c'est la grâce qui maintenait la nature et l'empêchait d'être jalouse. Dès qu'on veut supprimer la grâce, dès qu'on la supprime, dès qu'on ne fait pas des efforts pour retrouver ce contact avec Dieu. On risque alors de se laisser prendre par la jalousie. Il faut ensuite... Alors, on ne dit rien par rapport à la conduite de Dieu. Si ce n'est cette chose très étonnante et difficile du reste à comprendre, Yahvé dit à Caïn, « Où est donc Abel, ton frère ?» Il dit, « Je ne le sais pas. Suis-je gardien de mon frère ?» Donc, immédiatement, le péché de jalousie supprime le point de vue de la charité fraternelle, l'intimité d'être gardien l'un de l'autre, et le mensonge. Il y a une espèce de cascade de fautes. Et c'est intéressant de voir cette cascade de fautes, comment une faute engendre une autre faute. Il avait dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi du sol. Maintenant donc, maudit sois-tu de la part de ce sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa vigueur. Errant et fugitif, tu seras sur la terre. Qu'un dit à Yahvé, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici, que tu me chasses aujourd'hui de dessus, de la face du sol et de ta face. Et de ta... Je dois me cacher. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et alors, quiconque me rencontrera me tuera. Yahvé lui dit, eh bien, quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Voyez le lien qui demeure malgré la faute. Dieu ne répond pas à Caïn, eh bien, tu as tué ton frère, c'est normal que les autres te tuent. Ce n'est pas du tout le raisonnement de Dieu. C'est important. Dieu n'entre pas dans cette dialectique humaine, œil pour œil, dent pour dent. Non, tout de suite, même à Caïn, malgré la faute, Dieu se fait le gardien de Caïn pour que Caïn se convertisse. Eh bien, quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Yahvé mit un signe sur Caïn pour que ne le frappe pas quiconque le rencontrera. Caïn se retira loin de la face de Yahvé. Il habita au pays du Nord, à l'est de l'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Comme il bâtissait une ville, il appela la ville du nom de son fils Hénoc. À Hénoc naquit Irad. On voit. Le point de vue de la fécondité continue et Dieu est gardien. Je crois qu'au point de vue du gouvernement divin, c'est très important, ça. De voir que Caïn, tout de suite, a peur des hommes, parce qu'il sait que les hommes sont injustes. Les hommes se laissent aller à la colère. Ils veulent uniquement une vengeance immédiate. Dieu a le temps, l'éternité pour lui. Et Dieu se fait le gardien de Caïn. Au fond, Dieu interdit à l'homme d'aller jusqu'au sang, de tuer. Parce que c'est la première riposte, hein. 100%. Et Dieu interdit à Caïn. Dieu se réserve le cas de Caïn. Puisque justement, il s'agit de la mort et que Caïn n'avait pas le droit de tuer Abel. La vie, elle dépend de Dieu. Notre âme dépend de Dieu. La grande question, il s'est levé chez les théologiens, savoir la peine de mort, savoir la guerre légitime. Et c'est à partir de là. Hein. Donc, il faut toujours voir cela, parce que c'est le point de départ. Au début, Dieu s'est réservé la réponse, le châtiment pour Caïn. Nous avons ensuite, on ne précise pas, ça a l'air de se multiplier sans gouvernement particulier de Dieu. le gouvernement de la nature et pas des personnes. Vous voyez, tout de suite, il distinguait les deux. Puisque la nature n'est pas touchée, Caïn engendre des enfants. Son pouvoir de coopérer avec Dieu dans la génération et la procréation n'est pas touché. Donc, la nature humaine garde son pouvoir. Et Dieu lui conserve ce pouvoir, puisque toute procréation est l'œuvre commune de l'homme avec Dieu par la création de l'art. Et c'est signalé, hein, tout de suite, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoch. Comme il baptisait une ville, il appela la ville du nom de son fils, Hénoch. Vous voyez, Caïn, qui est maudit, mais qui est sous la garantie de Dieu, est père d'Hénoch. Et Hénoch, c'est le bâtisseur d'une ville. Alors, on montre toute la descendance d'Adam. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce premier moment du gouvernement divin qui reste fidèle à la nature, avec le point de vue du péché de nature qui se propage. Et qui fait que l'homme difficilement reconnaît Dieu. Et alors, un petit passage au chapitre 6, qui est très difficile à commenter. « Lors donc que les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol et qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ah. » Origine de la séduction de la femme sur l'homme. Chapitre 6. Et c'est très, très étonnant, hein, cette multiplication après le meurtre d'Abel, ça continue. L'alliance de Dieu avec la nature humaine pour la procréation n'est touchée en rien. Et puis on note à côté, alors on donne des explications mais très difficiles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Oui, du côté de la beauté, l'homme rattrape Dieu. Ah, c'est curieux ça. Oui, et c'est dit de façon très, très particulière. Lors donc que les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol et qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Il avait dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. C'est déjà pas mal, hein. Les néphites, les Néphilim étaient sur la terre en ces jours. On ne sait pas exactement ce que c'est. Là, et même après, quand les fils de Dieu allaient vers les filles des hommes, ils leur donnaient des enfants. Ce sont les héros des temps antiques, des hommes de renom. Curieux. On dit rien de plus. On dit donc que l'amour de Dieu demeure et demeure d'une façon très très spéciale puisque il y a des filles très belles. Alors on voit là une protection de Dieu et c'est tout à fait d'après le texte, ça semble bien ça, une protection de Dieu qui montre que l'humanité ne se porte pas si mal. Hein. Et il n'y a pas de nouvelle alliance avec Dieu. Il y a simplement Dieu qui protège l'homme malgré sa faute. Et une faute pas mal, hein, le meurtre d'Abel. Et je n'ai pas le droit de supprimer ça, hein, à bon gré, parce que je ne le comprends pas, je le supprime. Non, non. Acceptez qu'il y a quelque chose dans le gouvernement de Dieu que vous n'arrivez pas à comprendre. Ce petit passage du chapitre 6, je vous invite à le creuser, parce que je crois qu'il est très important. Vous voyez, on a posé la question du gouvernement de Dieu sur la nature, du gouvernement de Dieu sur la personne. Bon, il est intéressant de le voir dans l'Écriture. Yahvé vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que pensées mauvaises à longueur de journée. Donc Dieu a été fidèle et continue une alliance avec les gens. Mais les hommes usent mal de cette alliance avec Dieu. Son cœur ne forma que pensées mauvaises à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme. Ça va trop bien. Ses filles sont trop belles. Et la beauté qui est toujours la grande tentation de l'homme, hein. Et son cœur n'est pas adéquat à ça. Mais Dieu a maintenu ça. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il s'affligea dans son cœur. Yahvé dit, je vais effacer le dessus, la surface du sol. Les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce au Dieu de Dieu. Alors ça, c'est toujours très important à voir, je crois. C'est la première fois qu'on voit comment une personne peut racheter toute la corruption de la nature. Alors, on montre comment l'homme exploite pour lui la bienveillance de Dieu et qu'il se multiplie, il ne pense qu'à ça. La jouissance. Et ça va jusqu'au fait Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme. Ce qui montre, ce qu'il veut montrer, parce que Yahvé ne peut pas se repentir, mais l'homme agit de telle manière que normalement Dieu devrait se repentir. C'est très important pour nous ça, de voir ça, que Dieu attend l'homme jusque-là. Dieu a cette patience angélique, Dieu a cette patience de laisser l'homme se pervertir au milieu des jouissances. Et vous voyez, si on montre justement la beauté, comment la beauté est tentation, comment la beauté va permettre à l'homme de croire que tout est permis. Et ça reste comme ça. Comment la beauté apparaît comme ce qui séduit l'homme et l'empêche d'adorer et l'empêche de se soumettre à Dieu. Dieu se repentit. Et le repentir de Dieu va cesser parce que Noé est fidèle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.